Voilà, on va reprendre place et on va ouvrir la parole de Dieu. Je vais demander à tous les parents, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle, vraiment de veiller à ce qu'il puisse y avoir le plus grand calme, le plus grand respect possible pendant la parole de Dieu. Si on peut tenir un petit peu à sa place sans se déplacer, ça serait formidable, par respect pour ce livre. Et on va ouvrir ensemble notre Bible. Juste un seul verset dans le livre de Galates, c'est... Mon thème de ce matin, c'est les années passent. Faut pas tout gâcher. Je crois que on est tellement négatif des fois sur notre passé, on se dit jusqu'à présent notre vie est pas terrible. Mais votre vie elle est pas si mal que ça. Je crois que contrairement à ce que vous pensez, vous êtes assez béni, voire même vraiment vraiment béni. Aujourd'hui vous êtes dans la maison de Dieu. Si vous êtes là, c'est que vous aimez Dieu, c'est-à-dire que Dieu est encore au centre de votre vie. Et finalement, quand on compare avec vos voisins, vos membres de famille, même vos enfants dont vous vous plaignez des fois, finalement, Dieu est bon pour vous. Et finalement, vous en sortez pas trop mal. Et je dirais même qu'il y a une grâce de Dieu sur vous, mais simplement, vous l'oubliez et vous réalisez pas combien Dieu est bon pour vous. Mais par contre, il y a un vrai risque. C'est on est fragile. Vous êtes fragile, je suis fragile, quel que soit notre âge, on est fragile. Et avec les années qui passent, on vieillit, soit on mûrit, ça devient meilleur, soit on s'aigrit et on devient dur. Et des fois, en devenant dur, on peut tout casser. On peut casser des choses que Dieu a construites dans votre vie depuis des années et des années. Juste le verset de Galates 5, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui dit cela, il dit « Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ?» Vous couriez si bien. Vous n'avez peut-être pas l'impression de courir beaucoup, vos jambes, vous avez l'impression, sont peut-être un peu fatiguées avec les années, et pourtant les Galates, ils n'étaient pas parfaits, hein. C'était pas une église de rêve où il y avait aucun problème. Je suis sûr qu'il y avait des soucis, il y avait des maladies dans l'église des Galates. Il y avait parfois des problèmes de finances, il y avait des soucis de ceci et de cela. Mais l'apôtre Paul dit, vous couriez bien, si bien. Faut pas vous arrêter. Seigneur, conduis cette parole, que vraiment elle puisse impacter un cœur, impacter une famille ce matin. Tu vois, tous les enfants aussi qui sont là en cette matinée du premier jour de l'année, que vraiment eux aussi puissent retenir une leçon de ta part, que du plus jeune au plus âgé, on puisse retenir quelque chose de ta part en cette matinée. Vraiment, instruis-nous, conduis-nous selon toi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, on bascule dans l'Ancien Testament maintenant. On bascule dans le livre des Deux Rois. Alors, ça va être un peu compliqué pour ceux qui ont leur Bible. C'est deux Rois et deux Chroniques. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire incroyable, l'histoire qu'on va voir ce matin. C'est l'histoire d'un certain Joas. Joas. Vous connaissez Joas ? Pas Jonas, hein ? Non, Joas. Il y en a deux Joas dans la Bible. Et le Joas que l'on va voir, c'est un petit garçon de 7 ans. C'est un petit garçon qui va vieillir parce que personne ne reste petit garçon longtemps. Et oui, même papa, un jour, a été un petit garçon. Maman a été une petite fille de 7 ans un jour. C'est comme ça, les années passent. On doit pas tout gâcher. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joas ? En fait, c'est une histoire terrible. Parce que la naissance de Joas, son papa s'appelle Ahazia. Il est roi de Juda. Donc, normalement, ça commence bien. Il est le fils du roi. C'est un petit bébé. Il a quelques mois. Il a à peine un an. Quand son papa fait une mauvaise alliance, son papa va à la guerre avec un roi qui est un roi mauvais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son papa, donc Ahazia, meurt à la guerre. Il meurt dans des circonstances de gâchis. Son père finit très mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour vous dire l'histoire, la vraie histoire, c'est que la mamie de Joas, la grand-mère, quand elle voit que le roi, son fils, est décédé, la reine mère décide d'exterminer tous les enfants de la famille royale. Parce que cette femme qui s'appelle Athalie, elle a une quarantaine, cinquantaine d'années, aime tellement le pouvoir que quand elle voit que son petit chéri, le roi de 22 ans, Ahazia, est décédé, elle fait exterminer tous les petits-fils du roi. Vous comprenez l'idée ? Un jour, dans la maison, c'est comme ça que ça s'est passé, dans le palais royal, les gardes, sur l'ordre de la grand-mère, viennent et tuent tous les enfants un par un. Et c'est ce qui se passe en cette année 847 avant Jésus-Christ. 841 avant Jésus-Christ. Tous les enfants du roi, les petits-enfants, sont mis à mort par la reine Athalie. Sauf Joas. Vous savez pourquoi Joas survit ? On lit l'histoire. Il a survécu. Quelque chose d'incroyable, combien Dieu est bon dans Deux Rois. Deux Rois, chapitre 11. Dieu va permettre qu'un petit garçon soit sauvé. Deux Rois, chapitre 11. Ça s'affiche sur vos écrans, dans la version Semeur. Lorsqu'Athalie, la mère de Ahazia, donc le roi, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire mourir toute la descendance royale de Juda. Mais au moment du massacre, Yehosheba, une fille du roi Yoram. Yoram, c'était le grand-père. Et sœur d'Ahazia parvint à soustraire Joas, un fils d'Ahazia, du milieu de ses frères, pour l'installer avec sa nourrice, pour le cacher en fait, hein, dans le dortoir du temple. On le cacha ainsi d'Athalie et il échappa à la mort. Pendant 6 ans, il resta caché avec Yehosheba dans le temple de l'Éternel, tandis que Athalie, la méchante reine, régnait sur le pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui a sauvé le petit Joas, qui avait à peine 1 an, c'est une femme courageuse. C'était même pas sa maman qui l'a sauvé. On ne parle pas de sa maman dans le texte. Peut-être sa maman était décédée au moment de l'accouchement, c'était comme très fréquent à l'époque. Sa maman n'apparaît pas dans le texte. Mais en fait, je sais une chose, c'est que la tata, Yehosheba, lorsqu'elle a vu et qu'elle a appris qu'il y avait un massacre, au risque de sa vie, puisqu'elle risque la mort, hein, elle risque la mort, elle dit « je ne peux pas laisser faire ça ». Elle se précipite et elle sauve un petit garçon dans l'ange, tout petit, Joas. Elle va l'amener, elle se dit « mais où je peux le cacher ?» Et un des meilleurs endroits pour cacher à l'époque, c'est le temple, la maison de Dieu. Vous voyez, ici, c'est quand même assez grand. En gros, elle a caché dans la garderie, ou bien elle a caché dans une salle d'école du dimanche quelque part. Les gens ne rentraient pas dans cette zone-là du temple. Les gens avaient l'habitude d'aller dans la grande salle de culte. Et elle a caché dans une petite salle, dans le dortoir. Et en fait, elle l'a placé avec sa nourrice, parce que comme il n'avait plus de maman, c'était la nourrice qui l'élevait, et elle l'a placé. Et en fait, il y avait une chance aussi, c'est que la tata, Yehosheba, elle était mariée avec, je suis désolé un peu, c'est des noms un peu compliqués, avec Yehoyada, qui était le grand sacrificateur. C'est-à-dire que son mari, c'était le responsable, le pasteur, le curé, ce que vous voulez. Et donc, ce couple-là a décidé de dire, on n'acceptera pas la tyrannie, on se lèvera au risque de notre vie et on cachera cet enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Verset 4. La 7e année, le prêtre Yehoada fit venir les chefs des centaines, des cariens, ceux de la garde royale et des autres soldats de la garde. Il les convoqua auprès de lui au temple de l'Éternel. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans l'enceinte du temple et leur présenta le fils du roi. Vous savez quelle est l'idée de Yehoada et de sa femme ? Ils se sont dit, Athalie, on en a marre de cette femme mauvaise, très loin de Dieu, une femme cruelle et dure. Elle dit, le petit Joas, maintenant, il a eu 7 ans. Et comme il a eu 7 ans, il est prêt à régner. À 7 ans, ça serait dur hein, quand même. Hein. Et ben si, ils ont pris le risque. À 7 ans, le petit garçon de 7 ans les trompettes, tout le monde convoqué dans le temple. Mais c'était secret, hein, parce qu'il ne fallait pas que la grand-mère le sache. Donc ils ont fait venir en secret tous les soldats, les meilleurs soldats, et ont dit il faut protéger cet enfant. Cet enfant, c'est un enfant dont Dieu a prévu qu'il règne. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu disait, des années et des années auparavant, et c'est pour ça que moi j'admire des hommes et des femmes de foi, comme cette tata et ce tonton-là, qui ont sauvé cet enfant. Ils ont dit, Dieu a dit qu'il y aurait toujours un enfant de la lignée de David sur le trône. Et on ne va pas laisser cette femme cruelle casser les projets de Dieu. Alors ils ont pris un risque, hein, parce que vous savez ce qui se passe lorsqu'on fait ça ? Si jamais on apprend, si jamais Attali apprend, c'est fini, hein ? C'est fini, c'est conspiration contre la reine, c'est fini. Et ils vont mettre à cœur de dire, nous croyons que Dieu a dit dans sa parole qu'il y aurait un descendant de David sur le trône. Et nous croyons dans les promesses de Dieu, même si ce que l'on vit actuellement, tout nous dit que c'est le mal qui triomphe. C'est le moment de faire gagner le roi, le nouveau petit roi qui a 7 ans. On va prendre trois leçons que je voudrais vous dire ce matin. Comment faut faire pour que votre vie, vous puissiez faire que vos années qui passent fassent de vous quelqu'un de meilleur et pas quelqu'un de mauvais. Première chose, rappelle-toi d'où tu viens. Et surtout, rappelle-toi de ce que l'on a fait pour toi. Vous connaissez le verset qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Si vous voulez vivre des années qui passent et qui sont bonnes, premièrement, rappelle-toi de ce que l'on a fait pour toi. Sinon, tu vas devenir dur. Rappelle-toi d'où tu viens et de ce que d'autres ont fait pour toi. La deuxième chose que l'on verra, c'est il faut que tu mettes toute ta passion, tout ton cœur, toutes tes forces. Les forces, elles passent vite, hein, dans la vie. Mets tes forces, mets ton cœur, mets ta passion. Agis pour que Dieu soit au centre de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton trésor. Je pense à certains de mes amis et peut-être qu'ils ont oublié ça. Et ce matin, ils sont loin de Dieu. Troisièmement, et ça sera le dernier point que l'on verra, reste entouré par des bonnes personnes. Parce qu'on va voir ce qui va se passer avec Joas, c'est qu'il va accepter progressivement de s'entourer de mauvaises personnes. Il y a un verset clé. Allez, on est parti là, il y a un verset clé. Il est dit que Joas resta fidèle à Dieu pendant toute la durée de la vie du souverain sacrificateur Yehoiada. Toute sa vie, ça vous le voyez dans les deux, aussi bien dans deux rois que dans deux chroniques. Alors rappelle-toi d'où tu viens. Premièrement, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ? Il m'a sauvé. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Non, parce qu'avec les années qui passent, vous finissez presque par oublier d'où vous venez. Vous êtes un miracle. Tu es un miracle. Il y avait d'autres enfants dans cette maison ce jour-là. Il y avait d'autres enfants qui n'ont pas été sauvés. Il y a peut-être dans ta famille, maintenant que tu y penses, tu as peut-être des sœurs, des frères, des cousins, des cousines qui n'ont pas eu ta chance, qui n'ont pas eu la chance de connaître Dieu comme tu l'as connu. Ah, tu as connu des souffrances. Peut-être ta maman est morte aussi, peut-être tu as eu des personnes méchantes comme cette Attali dans ta vie. Mais je peux te dire une chose, c'est que dans tous ces malheurs, si tu regardes avec objectivité, au lieu de regarder toujours ce qui ne va pas, si tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, tu fais « quand même, Dieu a fait qu'il y ait quelqu'un qui normalement n'aurait pas dû me sauver, qui m'a sauvé. » Je ne sais pas quelle est la personne qui est venue un jour te dire « écoute, Dieu est une solution dans ta vie. » Je ne sais pas si c'est dans ta famille, si c'est dans la rue avec un tract, si c'est un jour quelqu'un qui t'a amené à l'église. Mais il y a eu comme ce que tu appelais un coup de chance, qui finalement s'appelait Dieu. Et qui t'a saisi par la main, qui t'a tiré au milieu. Mais regardez combien on est de personnes qui connaissent son Dieu. Regarde dans ton travail, combien connaissent Dieu comme toi. Mais c'est une chance incroyable, tu l'oublies tout le temps. Joas, rappelle-toi quelle chance tu as. Vous qui êtes petit là, vous avez une chance incroyable. Vous avez la chance d'être là ce matin. Vous avez la chance de pouvoir commencer à chanter des cantiques, à louer Dieu, à prier. Vous avez une chance. Vous avez une chance parce qu'à l'école, quand vous avez un problème, vous avez le droit de dire « Seigneur, viens m'aider ». Et Dieu peut vous aider. Et Dieu veut vous aider. Vous avez un ami que les autres n'ont pas. Petit Joas, il a eu un ami en la personne de sa tante que les autres n'avaient pas. Alors il y a une part, il y a deux choses que je voudrais que tu te rappelles. Un, ce que Dieu a fait pour toi, deux, ce que les autres ont fait pour toi. N'oublie pas que Dieu utilise toujours des autres pour te bénir. T'es pas venu comme ça, hop, tu t'es pas converti en un jour, t'as pas rencontré le Seigneur comme ça par hasard. Il y a sûrement quelqu'un qui a fait quelque chose, peut-être un petit caillou qui t'a mené vers Dieu. Vous vous rappelez de cette personne-là ? Allez, ce matin, on arrête quelques instants le message. Rappelez-vous de la personne ou des personnes à qui vous devez cette chance, cette grâce incroyable d'être sauvé ce matin. C'est grâce à qui ? Moi, je sais pas grâce à qui, je sais pas pour vous. Moi, j'ai la chance d'être né dans une famille super. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Vous avez, c'est une année de plus que vous vivez avec Dieu. Vous avez pensé à donner un coup de téléphone à cette personne ? Vous avez pensé à lui dire, au fait, je te parle souvent de mes soucis, mais j'ai oublié de te dire que quand même, merci de m'avoir présenté Jésus. Merci de m'avoir aidé à sortir du massacre. Parce que si vous avez passé un réveillon peut-être un peu difficile, je peux vous dire que derrière les airs de fête aux Champs-Élysées, la vie de certains, c'est un massacre. C'est un massacre. Des gens riches, des gens qui ont plein d'argent, c'est un massacre. Je lisais le témoignage d'une femme extrêmement intelligente, des diplômes. Elle est thérapeute, elle aide les autres à s'en sortir, vous voyez. Son métier, c'est bien, c'est un beau métier. Elle est là pour aider les enfants qui ont des troubles, etc. Et son propre fils s'est suicidé. Je me dis, mais c'est terrible parce que cette personne-là, on a beau des fois... Vous avez la grâce de Dieu sur votre vie. Vous avez de la grâce de Dieu. Vous auriez beau avoir tous les diplômes de la terre, tous les finances de la terre, tout l'amour de la terre. Si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas Jésus, il vous manque vraiment quelqu'un dans votre vie. Rappelle-toi. Je me dis, rappelle-toi, Yvan, de ce que Dieu a fait pour toi et rappelle-toi aussi de ce que d'autres ont fait pour toi. Le deuxième point, c'est agir en mettant Dieu au centre de ta vie. Vous savez ce que va faire ? Regardez, on va lire un petit texte. On va lire la suite du texte. C'est dans 2 Rois. Oh non, je vais prendre en 2 Chroniques. Allez, pardon. 2 Chroniques 24. 2 Chroniques, chapitre 24. En fait, pourquoi il y a dans 2 Rois et dans 2 Chroniques ? Parce que c'est la même histoire qui est racontée dans deux livres différents. Dans le livre des Rois et le livre des Chroniques. Peut-être c'est plus clair dans le livre des Chroniques pour cette partie-là. 2 Chroniques 24, on va lire à partir du verset 4. Tous ceux qui ont plus que 7 ans dans cette salle, voilà ce que vous pouvez faire en vieillissant. Alors c'est donc le petit bonhomme là, il a passé ses 7 ans... Il est roi sur Israël, les années passent, allez, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Plus tard, verset 4, Joas eut à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Vous savez, quand vous passez beaucoup de temps dans un endroit, vous l'avez à cœur. C'est vrai, hein ? Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait pour ceux qui viennent des îles, mais quand vous retrouvez... L'endroit dans lequel vous êtes né, où vous avez joué dans votre enfance, ça vous fait un petit quelque chose, non ? Moi, il y a des endroits comme ça, mais je sais très bien. Hein, je vois certains arbres, je me dis, là, il y avait une cabane. Et puis, tout vous semble différent, non ? En vieillissant. Au début, ça vous paraît immense quand vous avez 6 ans. Et vous revenez, c'était pas si grand que ça, en fait. Hein. Les cachettes que vous trouviez, des placards gigantesques, vous pouvez même pas rentrer une souris maintenant. Et je vois Joas, il se dit, j'ai passé mon enfance dans le temple de l'Éternel. Il a de la chance quand même. Il n'était pas parfait, le temple de l'Éternel. Il était vieux et abîmé, le temple de l'Éternel. Il y avait des fuites dans le toit, il y avait des problèmes dans les portes, il y avait des courants d'air. Il a dormi là, il a dit « Oh, oh, oh !» quand il a vieilli. « Moi, je veux qu'on s'occupe du temple !» Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il s'est dit « Je veux restaurer l'endroit dans lequel j'ai pu grandir avec Dieu. » Est-ce que vous avez à cœur de prendre soin de la maison de Dieu ? Là où vous avez grandi avec Dieu, là où Dieu vous a parlé, là où vous avez reçu une prophétie, il a à cœur, il dit « Moi, je ne peux pas laisser ça comme ça, je veux restaurer le temple de l'Éternel. » Alors il convoqua les prêtres et les lévites, il convoque les pasteurs en fait, hein, et dit « Allez parcourir les villes et collectez chaque année dans tout Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. Menez promptement cette affaire. » Mais les lévites laissèrent traîner les choses. Ça, c'est pareil à l'époque, dis donc. Le roi convoqua le grand prêtre Yehoiada et lui demanda, « Mais pourquoi n'as-tu pas demandé aux Lévites de percevoir des habitants de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'Assemblée d'Israël, pour la tente où se trouvait l'acte de l'Alliance ? En effet, la perverse Athalie, ça c'est la mamie, hein, et ses partisans, donc qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils ont forcé l'entrée du temple de Dieu, ils ont même utilisé pour le culte de Baal tous les objets sacrés du temple de l'Éternel. Sur ordre du roi, regardez, le roi Joas qui décide, on fabriqua un coffre que l'on plaça près de l'entrée du temple de l'Éternel à l'extérieur. Et on fit proclamer dans tout Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution imposée par Israël, à Israël par Moïse, serviteur de l'Éternel dans le désert. Tous les dirigeants, en gros il dit, il faut donner à la maison de l'Éternel. Alors il y a deux possibilités, certains vont faire la tête ou pas. Eh ben non, tous les dirigeants, et tout le peuple s'en réjouir. Ils apportèrent de l'argent et le mirent dans le coffre jusqu'à ce qu'il fût plein. Voyez, quand tu es motivé pour la maison de Dieu, ça contamine les autres positivement. Parce qu'à la base, ça coûte de réparer la maison de Dieu, d'investir dans la maison de Dieu. Quand tu donnes tes offrandes à dîmes, ça te coûte. Mais vous voyez, Joas il dit, on peut faire quelque chose avec qui fasse du bien pour tous. Et il va remotiver les troupes. Et il va mettre, c'est marrant, un coffre. Vous avez déjà un coffre chez vous ? Qui sait ? Je ne sais pas si vous avez un coffre chez vous. Il y en a qui ont une petite tirelire, non ? J'avais ça aussi. Mais la Bible, vous savez ce qu'elle dit à propos des coffres ? À propos des trésors ? Elle dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors moi je dis amen et je me dis, mince, j'ai intérêt à ce que mon trésor soit au bon endroit. Parce que pour certains, votre trésor, c'est soit l'appartement, et tout le budget va dans l'appartement, soit c'est la voiture, et tout le budget va dans la voiture, soit c'est ceci, ce projet-là, ceci, et en fait, tu es accaparé, et toute ta vie tourne autour de ça. Quel est le centre de ta vie ? Pour certains, c'est l'argent, d'autres, c'est la gloire, d'autres, c'est la promotion. Tu travailles comme une folle pour obtenir cette promotion. Méfie-toi d'être déçu. Méfie-toi d'être déçu. Parce que la justice sur la terre est décevante. Et tu peux faire plein d'efforts des fois pour être bien vu et ça peut s'effondrer en un jour, il suffit que ton chef soit muté. N'investissez pas là où la rouille dévore, dit Dieu. Investissez dans les choses de Dieu. Mettez en que Dieu soit votre trésor. Que Jésus soit comme votre coffre au milieu de votre vie. Que ce soit Jésus dans le coffre et pas autre chose, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il soit le vrai trésor de votre vie. Alors il va s'organiser, on termine ce point en disant, regardez, il faut s'organiser. Parce que Yehoiada, il était bien le papy là, le tonton, là, le vieux tonton. Il avait 130 ans quand il est mort, dis donc, hein. Il n'était pas jeune, hein. Et je pense que ce vieil homme, il avait à cœur la maison de Dieu. Mais vous voyez, il faisait les choses un peu à l'ancienne, quoi. Il dit, on va envoyer des lévites qui vont faire le tour du pays et on va leur dire, ramenez quelque chose pour la maison de Dieu. Les années passent, il n'y a rien qui arrive. Joas, il dit, oh, il faut que ça bouge, là. C'est pour ça que Dieu te donne des années. C'est pour que tu puisses t'organiser pour mener à bien des projets pour Dieu. Je répète, Dieu te donne cette année 2012 pour que tu puisses mener à bien des projets pour Dieu. Que d'autres ne peuvent pas faire. Le papy, là, Yehoiada, il est tellement vieux qu'il fait tout son cœur, vous voyez. Mais c'est à toi, Joas, qui a une année, la plus jeune, c'est à toi de dire, maintenant je vais prendre le flambeau, et avec respect, tu dis, yo, Ayada, c'est bien ton, tes techniques, mais ça ne marche pas trop bien. Ton cœur est bien disposé, mais les résultats ne sont pas là. Et quand vous voyez des choses, peut-être dans la maison de Dieu qui ne vont pas, et c'est vrai ici aussi, on est très imparfait, plutôt de dire, ça ne marche pas, c'est nul, j'en ai marre. Joas, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me retrousse les manches et je bosse. Et il va bosser pour les autres. Et son idée, elle est bonne. Elle est bonne. Pour moi, ça, c'est bien, bien vieillir, vous voyez. C'est au lieu de se tourner les pouces, regarder ce que les autres font et dire ça va pas, c'est de dire je me mets au boulot et ça va avancer. Pour Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas si ça vient de Dieu ce projet. Si c'est un projet qui est pour Dieu, qui n'a aucun intérêt personnel, et que c'est vraiment un acte de générosité de ta part, tu n'as aucun risque, ça vient de Dieu. Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu aime quand tu fais ça. Vous allez savoir ce qui se passe à la fin de l'histoire. Il a mis des années et des années à récolter un trésor pour la maison de Dieu. On va lire quelque chose de très triste. Verset 23 du chapitre 24 du deuxième livre des Chroniques. Au verset 22, pardon. Est-ce que c'est possible d'afficher le verset 22? On arrive à la fin ce matin. J'ai quelques petites choses à vous dire. Ah, ça va être triste. Hein. Verset 22, 2 Chroniques 24. Joas, ainsi le roi Joas oublia toute la bienveillance de Jehoiada, le père de Zacharie qui avait fait preuve envers lui, et il fit tuer son fils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il te fasse rendre compte. À la fin de l'année, l'armée syrienne vint attaquer Joas. Les Syriens envahirent Juda et Jérusalem. Ils massacrèrent les dirigeants du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. Les Syriens étaient venus avec un petit nombre d'hommes. Et cependant, c'est bizarre, hein, regardez, l'Éternel leur donna la victoire sur une armée considérable de Judéens parce que ceux-ci avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Et les Syriens furent les instruments du jugement contre Joas. À peine se furent-ils retirés de chez lui en le laissant dans de grandes souffrances que ses propres ministres, ses ministres, conspirèrent contre lui. À cause du meurtre du fils du prêtre Jehoiada, ils assassinèrent donc le roi Joas dans son lit. Pff, quel gâchis. La fin de Joas, c'est un grand gâchis. Quand je vois l'enfant et quand je vois le résultat, je me dis, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment quelqu'un qui était aussi bien parti a pu mal tourner? Alors ça, c'est vrai pour tous ceux qui sont à l'école primaire, au collège, au lycée, à ceux qui sont dans la vie adulte. Qui sont les personnes qui t'entourent? Qui sont les personnes qui t'entourent? Verset 17, regardez ce qui s'est passé, ce que je n'ai pas lu entre les deux. Après la mort de Jehoiada, les dirigeants de Juda vinrent se prosterner devant le roi qui les écouta. Ils délaissèrent le temple de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et ils rendirent un culte aux acharas et aux idoles. Par sa conduite coupable, ils provoquèrent la colère de l'Éternel contre Juda et Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Mais ces prophètes protestèrent contre eux. Mais personne ne les écouta. Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, le fils du prêtre Jehoiada. Il se présenta devant le peuple et dit, « Voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne réussirez rien. Puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous a abandonné. Alors les gens complotèrent contre lui. On le tua à coups de pierre sur ordre du roi dans les parvis du temple de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Joas? T'es devenu fou? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le tonton, le bon tonton Yehoyada est décédé. À 130 ans, lui, il est parti dans la paix, la gloire. Il a même eu droit à être installé dans la cité des rois. On lui a fait même un enterrement royal. Mais quand il a perdu cette personne-là, qui était son principal conseiller, qui le tirait vers le haut, qui lui parlait de Dieu, qui lui disait « C'est bien l'Éternel et le roi, il est au centre de mon cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et toi, je te conseille de faire pareil. » Et tant qu'il y avait ce Yehoyada, Joas, il marchait bien. Et quand Yehoyada n'était plus là, il s'est dit « Je suis devenu mûr, je suis devenu grand, je suis devenu sage. Moi, j'ai fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu dans le passé. » Ça vous arrive jamais de dire ça ? Oh pasteur, oh, dans notre église, j'ai déjà beaucoup donné. J'ai beaucoup donné, j'ai fait beaucoup. Non, toutes ces histoires-là, je les ai entendues. Oh là 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 là, les prédications, j'en ai eu des tonnes. J'ai eu Yehoyada comme responsable de stage pendant des années. J'étais dans la super église de Yehoyada. Donc là, maintenant, moi, j'ai plus grand-chose à apprendre. Et moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Eh bien, ce n'est pas avancer que tu as fait, c'est un grand bond en arrière. Parce qu'il s'est entouré de ses nouveaux copains. Méfie-toi de ces nouveaux copains que tu choisis. Et c'est pour ça que ce matin, je dis attention à ne pas tout gâcher. Parce que les années passent, et si vous ne réalisez pas tout le bien que Dieu a fait pour vous, et si vous ne gardez pas au centre de votre vie le coffre dans lequel il y a Jésus, il suffirait qu'il y ait deux ou trois passants que vous ayez comme meilleurs amis pour détruire ce que vous avez construit pendant des années. À la fin de sa vie, Joas, tout le trésor qu'il avait amassé pour Dieu, il l'a filé aux Syriens. Toute la bonté de Yehoada qu'il avait sauvé alors qu'il était condamné à mourir, aucune reconnaissance. Son cœur, c'est de la pierre. Parce qu'il a vieilli. Il a vieilli. Alors avant, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais avant, quand on te disait des choses sur toi, tu prenais de la hauteur. Aujourd'hui, tu rends coup pour coup. Et tu dis, pasteur, je ne me laisse plus faire maintenant. Ah, bravo, tu as progressé. Tu étais dans le Nouveau Testament, tu es passé dans l'Ancien. Ça s'appelle un grand bond en arrière. Oui, mais pasteur, maintenant, il y a des droits et il y en a marre. Que ça se passe. D'accord. Mais à partir du moment où c'est toi qui es sur le trône et Jésus, le coffre, il est vide, où la compassion qui était dans ton coffre, il n'y en a plus, il y a de l'expérience, d'accord. Ça s'appelle, moi, l'expérience, ça s'écrit avec un O et c'est l'orgueil. Parce que je vous assure, tous, moi y compris, en vieillissant, on se dit « je sais ». À 12 ans, tu regardes le garçon de 8 ans et tu dis « quel gamin ». À 18 ans, tu es majeur, tu regardes les gars de 12 ans, tu dis « il y a les bébés qui sont au collège ». À 30 ans, tu dis « le gamin à 18 ans, qu'est-ce qu'il fait des bêtises, il ne sait pas gérer sa vie ». À 50 ans, tu dis « ah, quand j'étais jeune, j'avais 30 ans, j'étais un peu… » Et à 80 ans, ils peuvent te dire ça. Hein. Quand j'avais que 50 ans. On se croit toujours plus sage après. Vous savez, l'orgueil, il grandit avec la vie. Et ça, il faut s'en méfier. La seule chose qui vous fait... Vous savez pourquoi certaines personnes âgées, c'est un peu dur à dire, sont humbles, des fois. C'est parce qu'elles étaient très orgueilleuses et elles ont pris une claque terrible suite à leur orgueil. Elles sont redevenues humbles. Et c'est ça que je voudrais te faire éviter ce matin. Et je pense que si tu es en train de dévier comme Joas, je veux être cette petite claque du 1er janvier là. Oh, gâche pas tout. Gâche pas tout, t'es bien parti. Gâche pas tout, il y a Dieu, il est avec toi et finalement, même si tu n'as pas ce jugement sur ta vie qu'elle n'est pas... Gâche pas tout. Ton premier service, c'était quoi ? Qu'est-ce que Dieu attendait de toi ? Qu'est-ce que Dieu attendait par rapport à ta famille, par rapport à ton conjoint, par rapport à ton épouse ? Par rapport à tes enfants ? Par rapport à ton église ? Par rapport à ton sourire ? Par rapport à ta louange ? Garde ça, c'est ça le cœur de ta vie. Et Dieu te voit vivre. Joas, t'as tout gâché en devenant dur et sec. Alors, certains vont me dire, oui, mais Yehoada, c'était une béquille dans sa vie. Et ben moi, je préfère une béquille qui me fait avancer doucement que pas de béquille du tout et repartir en arrière. Alors, on peut mépriser. Moi, je sais que ça m'arrive aussi de dire « Oui, mais ça avance pas assez vite. C'est qu'une béquille. » T'avances. 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 Est-ce que j'avance, Seigneur ? Est-ce que je vais tout gâcher parce que j'ai vieilli ? Ou est-ce que je vais garder, un, rappelle-toi de ce que d'autres ont fait pour toi. Deux, agis pour que Jésus soit toujours au centre de ta vie. Et trois, reste bien entouré. Méfie-toi des gens avec qui tu traînes, si tu t'éloignes de Dieu. Passe du temps dans la maison de Dieu aussi. Je voudrais vous dire ça, il n'y a pas de secret, hein. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu passes du temps avec la maison de Dieu, plus tu es passionné par Dieu. Plus tu passes de temps devant la télé, plus tu es passionné par la télé. Parce que quand tu commences la série, après tu veux voir la suite. Et quand tu fais dans la maison de Dieu et que tu t'accroches, eh ben c'est pareil, tu fais une série spirituelle. Méfions-nous, on est fragile. Moi, j'ai vu des pasteurs, et là, je termine, hein, c'est vraiment ma conclusion. J'ai vu des pasteurs tomber après avoir enseigné les autres pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ils se sont dit, je sais. Je peux. J'ai pas besoin de faire autant, quand même. Hein. Je peux m'accorder un peu de vacances, un peu de repos. Ben oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Oh là là, avant, je faisais deux réunions, trois réunions. Oh là, le culte, ça me suffit, etc. Tu peux, mais... On peut tout faire, mais maintenant ne t'attends pas à avoir les mêmes résultats qu'avant, faisant trois fois moins. T'étais pas si bête avant pour avoir. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que on s'étonne. Avant, t'étais. Mais pourquoi t'étais aussi chaud spirituellement ? Pourquoi t'étais rempli de Dieu ? Parce que tu prenais aussi les moyens pour. Et si aujourd'hui tu fais avec trois fois moins de moyens, n'attends pas à avoir les mêmes résultats qu'avant. Joas, tu traînais tout le temps avec Dieu avant. Tu traînais avec Yehoada, tu traînais dans la maison de Dieu, tu t'occupais du trésor du temple, tu étais enflammé pour Dieu. Maintenant, tu traînes avec tes copains, là. Tu passes plus de temps dans la maison de Dieu. Et quand il y a quelqu'un qui vient te dire « Reviens, change !» qui s'appelle Zacharie, tu dis « M'énerve, je le lapide, lui. » Et tu vas finir par détruire des mini-toi, des gens qui te ressemblent à ce que tu étais avant. Ah, c'est terrible, ça, hein. Seigneur, protège-moi un jour d'écraser ce que j'étais lorsque j'étais fidèle. Permets-moi d'éviter de gâcher ce que tu as fait de moi quand j'étais plus humble et plus petit à mes yeux. On ferme les yeux ensemble ? Est-ce que tu réalises ce matin que tu es un miracle ? Tu es un miracle. Tu es un miracle de l'amour de Dieu et tu es un miracle parce qu'il y a quelqu'un qui a investi pour toi, qui t'a béni, qui a pris des risques, qui a pris un risque pour toi. Agis ce matin en mettant Dieu au centre de ta vie. Et reste bien entouré. Passe du temps avec Dieu, passe du temps dans la maison de Dieu. Passe du temps avec des personnes qui te tirent vers le haut. Et si jamais tu perds un Yehoyada dans ta vie, parce que peut-être le Seigneur le reprendra. La maturité, c'est pas l'indépendance. La maturité, c'est la dépendance de Dieu. C'est d'aller choisir des personnes qui te garderont dans l'humilité, qui te nourriront spirituellement, parce que tu ne découvriras pas toi tout seul. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi. Il y a quelques années de cela, je me suis moqué d'une anecdote. C'était le pasteur Claude Hood. Pourtant, c'est un bon pasteur. et j'ai trouvé que son anecdote, elle était nulle. Je vous parle en toute vérité ce matin. Je me suis dit, son anecdote, c'était celle-là. Il dit, il y avait quelqu'un qui était un éleveur de chiens, des lévriers, les chiens de course. Et tous ces chiens couraient dans le stade. Vous savez, ça se fait en Angleterre, hein, les stades. Et Claude Oud, il dit comme ça. Le propriétaire des chiens, il mettait toujours le pari sur le chien qui allait gagner. Il savait lequel allait gagner. Alors que théoriquement, ce n'était pas possible. Vous savez pourquoi ? Il y en avait un qui nourrissait plus que l'autre, plus que les autres. Alors au début, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, c'est nul cette histoire. Spirituellement, c'est trop simple. Et bien finalement, avec les années, je me rends compte que c'est de quoi tu te nourris qui fait que tu vas tenir longtemps ou pas. Et qu'effectivement, si tu te nourris de Dieu, si tu as vraiment ton temps de louange, si tu as ton temps de lecture de la Bible, si tu passes du temps à l'église, tu gagneras la course. Pasteur, c'est trop simple. Mais c'est très difficile à faire sur le long terme. Pasteur, il suffirait de faire ça ? Eh bien, il suffit de faire ça, dis donc. Je te garderai, si tu gardes ma parole, dit Dieu. Je te garderai. À l'heure de l'épreuve qui viendra sur ta vie, je te garderai. Reste attaché au Seigneur. Vous allez rester attaché au Seigneur. On se lève ensemble. Le culte est terminé. On va passer par les quelques annonces, mais je voudrais qu'on se lève ensemble. Et on va prier les uns pour les autres pour terminer ce culte. Jésus. Est-ce que vous avez envie de rester fidèle? Alors rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Mettez-le au centre de votre vie. Restez bien entouré. On peut prier pour votre voisin? Vous pouvez prier pour votre voisin, votre voisine. Seigneur, garde-nous en toi. Est-ce que quelqu'un a envie de prier dans cette salle? Est-ce que quelqu'un a envie de prier pour son voisin? Je veux entendre des petites voix toutes douces qui montent vers Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te prie pour mon voisin, tiens-le, tiens-la. Je prie pour ma voisine, Seigneur, elle a besoin de toi. Alléluia. Que 2012 soit béni pour toi dans ta vie. Seigneur, donne-nous une année de fidélité. Il y a ici des hommes et des femmes de Dieu qui ont des années de conversion. Ne gâchez pas tout. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il y a des enfants dans cette salle. Tu es super bien parti. Tu es parti comme Joas. Tu es sauvé déjà, c'est extra. Dis merci Seigneur, garde-moi en toi. Choisis des bons Yehoyada avec toi. Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il y ait dans cette salle vraiment des femmes de Dieu aussi courageuses que cette femme qui a sauvé cet enfant, qu'il y ait des personnes qui a cœur sauver les autres au risque de leur vie, en s'oubliant elles-mêmes, en disant « Seigneur, c'est vrai que j'ai plein de soucis, moi-même je risque ma vie, mais s'il y a encore un petit à sauver, je le sauverai. » Qu'il y ait des hommes de Dieu, des Yehoada, des serviteurs du Très-Haut qui disent « On tiendra le choc, on tiendra pendant 6 ans de galère s'il faut, mais on tiendra le choc. » Seigneur, renouvelle mes forces pour 2012. Jusqu'au bout. que ma voisine tienne jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia.